Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Mais tout le monde est dépressif, tu vois. Les riches, ils sont dépressifs. Les pauvres, ils sont dépressifs. Ils vont sur les ronds-points. Enfin, pas tous, mais en une partie. Les lascars, ils sont dépressifs. Ils disent, ouais, nanana, on nous maltraite. Ce qui est pas vrai. Ce qui est vrai, pardon. Il y a des trucs. Mais tu peux aussi regarder le bon côté. Tu vois, les gens qui disent, ouais, on n'a jamais de chance et tout. Bah, si. Il y a des gens qui s'en sortent, tu vois. Et c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Donc, faut mieux se dire ça. Bon, on est en train d'améliorer, tu vois.
Si vous avez besoin d'une dose de bonne humeur, eh bien, cet épisode est fait pour vous. Prix Goncourt du premier roman en 2018 pour son livre Grand Frère et finaliste du prix Médicis, l'homme que vous allez entendre est en fait bien plus qu'un auteur. Il a une joie de vivre incroyable et beaucoup d'humour. Il apprend sans cesse, il transmet et touche à tout ce qui relève de la narration avec curiosité et entrain. Il est né apatride d'une mère turque et d'un père kurde réfugié en France. Il a acquis la nationalité à 10 ans et il a grandi dans la banlieue de Nantes. Dès l'âge de 14 ans, il a fait plein de petits boulots pour payer ses études et ensuite il a été auditeur et consultant dans un grand cabinet de conseil. En 2016, il a participé à la création de l'hebdomadaire Le 1, dont il a été directeur exécutif aux côtés d'Éric Fotorino. Durant cet épisode, on a évoqué son livre, bien sûr, qui est un super thriller multi-histoire sur fond de terrorisme entre humour et gravité, je vous le recommande plus que vivement. Et avec lui, en fait, on a l'impression d'être à la fois avec un grand frère, un pote, un savant et un prof. Alors toujours sur un ton drôle et léger, on a discuté de l'écriture, du processus créatif et de son parallèle avec le sport, de la France, de son expatriation à Berlin pendant un an et des bons côtés du modèle allemand, de cinéma, de son avis totalement bluffant sur ce qu'est ou n'est pas l'identité française, les médias en France et leur manière d'attiser les pulsions froides chez l'humain, bien souvent, mais également le catastrophisme et ses effets pervers sur la question écologique. Bref, c'est un épisode à fort impact positif, bourré de bonne humeur et de sagesse. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole au génial Maïr Guven. Maïr, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie parce que j'ai énormément d'admiration pour toi. Et ton livre a fait l'effet d'un immense choc quand je l'ai lu. Donc vraiment merci.
Merci à toi.
Je vais te demander, parce que je le demande à tous mes invités, est-ce que tu peux te présenter autant professionnellement que personnellement?
Ouais. Alors, je m'appelle Maïr Guven, je suis un être humain de sexe masculin qui est né il y a 33 ans.
Je sais pas, à la voix, il y a un petit indicateur, mais bon.
voilà, je suis né à Nantes.
Ouais.
Je suis arrivé à Paris quand j'avais 20 ans pour aller à la fac à la Sorbonne, à Paris 1, pour une fac de droit et d'éco. J'ai fait une maîtrise de finance, j'ai été diplômé de maîtrise l'année de la crise financière, ce qui a conditionné beaucoup de choses en fait, parce que, je voulais travailler en banque d'affaires. En gros, c'était le plan qu'un peu tout le monde voulait faire. On travaille 3-4 ans, on se fait de la maille, et après on se fait un coffee shop ou une marque de sneakers, quoi, tu vois, on rigole, quoi. Et donc après, non, j'ai basculé vers le contrôle financier parce qu'il y avait du travail que dans le contrôle financier. J'ai travaillé chez Ernst & Young pendant plusieurs années. C'est très enrichissant, j'ai appris plein de trucs, j'ai travaillé avec plein de startups, des machins, des trucs. Ceci dit, une fois que j'ai dit tout ça, disons que moi j'ai toujours été quelqu'un d'hyper créatif et dans tous les domaines, que ce soit pendant une conversation dans un café, à rigoler. En fait, rigoler compte énormément dans ma vie.
Ça compte. Mais ça se ressent dans
m'amuser et tout. Je pense qu'on apprend beaucoup aussi en s'amusant. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est un truc qui manquait dans le travail. Et puis le délire costume dans une tour et tout, j'étais pas trop dans mon délire. Parallèlement à ça, montaient les histoires d'entrepreneuriat, machin. Et j'ai rencontré complètement par hasard Eric Fotorino. On pourra en reparler après.
Ouais, on va reparler.
Pour une histoire de Tour de France cycliste, on est devenus amis et il m'a embarqué avec lui dans une aventure de presse. On a créé un journal, le 1. Je l'ai rejoint parce que je me disais que c'était le projet le plus fou, c'est-à-dire faire monter une affaire dans le système, dans le secteur économique le plus sinistré. C'est plus sinistré que la sidérurgie, la presse. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés,
ouais.
En partie.
Ouais,
en tout cas, c'est là-dessus qu'on a bien.
Ouais, voilà.
Et puis parallèlement à ça, j'ai rencontré des auteurs, des écrivains, et puis je me suis dit en fait, ils sont des humains. Enfin, c'est des gens normaux, quoi, qui bossent. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un bouquin, je vais écrire un bouquin. Et comme à peu près tout ce que je fais, je me suis plongé dans qu'est-ce qu'était techniquement un bouquin. Donc, dramaturgie, structure, relance narrative, stylistique, etc. J'ai découvert qu'une grande partie de l'énergie que j'avais en moi, je pouvais transformer ça dans un bouquin. Et en, voilà, bon, je redétaille après.
Quand tu dis ça, tu t'es formé tout seul, c'est-à-dire que t'as pas fait d'école de littérature.
Non, mais je pense que ça peut aider, mais ça peut aider comme ça peut enfermer, de faire une école et de suivre un cours. Je crois que moi j'ai eu la chance en fait de faire pas mal de sport quand j'étais ado, et dans le sport on apprend quand même beaucoup soi-même. On est guidé, mais on apprend aussi soi-même. Et puis bon, la vie a fait que.
On apprend par soi-même et sur soi-même, tu veux dire ?
Ouais, mais on apprend en faisant, en fait.
Oui, d'accord. Okay.
C'est-à-dire, on peut pas apprendre à servir au tennis sans servir, quoi.
Donc tu fais un parallèle entre l'écriture et le sport.
Ouais, on apprend pas à servir en regardant des vidéos de service. Enfin, on peut, mais après, faut aller sur un cours, il faut prendre la balle et il faut taper dedans. Donc pour apprendre à écrire, bah, il faut écrire. Enfin, voilà.
C'est un exercice comme un autre.
Mais on n'apprend pas à nager sans jeter dans une piscine. On peut vous expliquer la technique et tout, mais voilà. Je dis des trucs extrêmement basiques, mais je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux parfois en disant quels sont les fondamentaux. Est-ce qu'on apprend à faire un podcast uniquement en écoutant ? Moi, j'ai écouté des trucs de podcast. Je me dis, je crois qu'il faut essayer à un moment, puis on voit ce qui marche pas, et puis on corrige, blablabla. Donc j'ai sorti ce bouquin et en fait quand j'étais arrivé au 1, je m'étais dit je fais ça 4 ans, après je verrai, est-ce que je reste, est-ce que je continue, je sais pas. Et donc est arrivé la quatrième année, ouais, et là j'ai décidé de démissionner sans me dire, je savais pas ce que j'allais faire. Mais c'était très important pour moi de pas savoir. Mmh. C'est-à-dire, j'y allais sans filet. Et puis, je verrais bien. Je voulais me reposer la tête, voyager, être détente, quoi. Parce que j'ai développé sur le tard un truc. En fait, je m'en fous de faire des choses utiles dans la vie. Ça m'intéresse pas. Je vais faire des choses qui me plaisent et après je me débrouille pour gagner de l'argent. Mais il y a un moment où j'essayais de faire des trucs utiles. Je pensais qu'à faire des trucs utiles. Mais on y reviendra parce que j'ai repris goût à la lecture comme ça. Et je pense que pour tes auditeurs, les gens notamment qui n'aiment pas lire ou qui ont peur du livre, ou les gens qui ne veulent lire que des livres utiles, parfois c'est vraiment une erreur, parce que des fois en allant vers des choses qu'on n'attend pas ou on trouve pas une utilité immédiate, en fait ça ouvre des perspectives incroyables et insoupçonnées.
T'as raison. C'est vrai.
Et vraiment, vraiment des fois faut. Moi là je suis auteur, moi je m'empêche pas de lire ce qu'on appelle des best-sellers comme Guillaume Musso ou Marc Lévy, parce que pour moi en fait ça a une utilité. D'une, je regarde comment c'est fichu, je comprends le monde aussi, je comprends les lecteurs
sûr,
qui aiment ces
livres. S'il y a un succès, exactement. Il faut expliquer le succès.
Il faut le comprendre. On peut ne pas aimer, mais il faut regarder. Il faut regarder sans juger. C'est nul et tout. Enfin, vraiment, faut éviter ça. Parce que c'est merveilleux d'être curieux dans la vie.
Ah bah,
c'est comme un enfant.
C'est indispensable.
Les enfants, c'est... Donc voilà. Je suis parti en Allemagne un an. L'an dernier, là, après le 1, c'était hyper bien.
Et là, tu viens de revenir.
Là, je viens de revenir, ouais. C'était hyper bien parce que d'une, ça a permis, moi, de grandir, j'étais passé de l'adolescence à l'adolescence, et là, je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte, quoi, grosso modo.
L'adolescence, je connaissais pas ce mot.
Et surtout, c'est la première fois que je me suis rendu compte, enfin, en partant dans un pays qu'on connaît pas, l'Allemagne, je connaissais pas, et on peut pas connaître par les films, les livres et tout. Il y a très peu d'œuvres qui paraissent chez nous, en tout cas qui ont un succès qui fait qu'on pourrait s'y intéresser. Et ben en fait, on connaît mieux la France après, parce qu'on regarde tout avec un œil neuf. On regarde tout, tout. Je pense que c'est pareil. Si t'es parisien et d'un coup tu pars vivre dans le fin fond de l'Auvergne, il y a un moment où tu comprends Paris. Tu te dis.
Bah oui, c'est le principe de la mise à distance.
Exactement, c'est le principe de la mise à distance. Et donc là, je suis rentré parce que tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire le pouvoir de la fiction, tout un tas de trucs, comment on devient auteur, etc. J'ai proposé à Hachette en disant, je crois qu'il y a un truc à faire sur les premiers romans. Parce que les grands lecteurs, les gens qui lisent beaucoup de bouquins, et il y en a beaucoup, hein, aiment les premiers romans. Ils aiment les premiers romans. Et l'autre chose, c'est que je crois que, en apportant des nouvelles voix, un nouveau regard, il y a possibilité d'attirer des lecteurs qui ne lisent plus, qui pensent que le livre, on s'ennuie avec les bouquins, qu'il se passe pas grand chose. Or, moi, je crois qu'on peut faire des trucs extraordinaires en bouquin.
Et là, par exemple. Quoi, Hachette?
Pardon, bah, j'aurais proposé de créer un label, là. Tu vois, t'es dans un bureau, t'es dans le bureau d'un label qui s'appelle La Grenade et qui va publier son premier bouquin, en mars. Et le titre, normalement, ça va s'appeler Et je veux le monde de ce premier livre.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, des origines du livre? C'est-à-dire, en quoi, je vais pas non plus te demander de parler que de ce livre-là, mais bon, c'est quand même un prix Goncourt.
Ouais, bien sûr,
il faut en reparler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse du projet?
Ouais. Alors en préambule, tu vois, un livre, plus le temps passe, mieux t'en parle. Parce que en fait, il y a plein de trucs inconscients, processus inconscients qui se passent dans ta tête, et qu'en fait après, avec le temps, t'arrives à comprendre comment ça s'est fait. Tu vois. Disons, je dirais, tu vois, il y avait une étude du Centre national du livre qui disait. Qu'un Français sur trois déclare avoir envie d'écrire un livre. Bon, moi, je faisais partie de ces 22 millions de personnes, mais je l'avouais pas. Hein. Je disais jamais en public, ouais, je vais écrire un bouquin, tout ça. C'était pas. Mais disons que comme beaucoup de gens, je pense que j'avais écrit des petits textes dans un coin. Ça peut être des récits intimes, tu vois, qui peuvent ressembler à un journal intime, mais pas que. Tu vois, tu testes, tu essaies de faire un édito. Enfin, tu sais pas. Tu as des trucs qui te passent par la tête. Tu t'amuses. Et je crois comme beaucoup de gens. J'ai eu une idée, tu vois, un jour, un truc qui me passait par la tête. Ah, ça ferait un bon film. Ah oui, ça ferait un bon livre, etc. Et donc, la jeunesse, c'est l'envie d'écrire, tu vois, avant même de ce livre-là. En me disant, en rencontrant des écrivains, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un livre parce que je pense que j'ai les capacités intellectuelles. Et ça, ce point, il est fondamental pour les auditeurs. C'est que, en fait, être artiste, c'est 90% d'artisanat, 5% de talent et 5% de regard personnel sur le monde. Mais il y a 90% d'artisanat. Moi, le regard que j'ai aujourd'hui, je l'avais quand j'avais 16-18 ans. Je veux dire, le regard, c'est l'énergie. C'est la manière dont tu regardes le monde, c'est-à-dire le côté déconne qu'on peut retrouver dans le livre, à côté de la plaque, quand tout le monde monte la lune, moi, je regarde le doigt, tu vois. Et c'est ce qui amuse les gens. Ça je l'avais déjà, mais après entre temps tu vois je suis devenu un artisan de tout ça.
Mais l'idée du bouquin,
ouais, alors j'arrive. J'ai écrit un premier bouquin qui s'appelle La Tour de Verre, qui est nul, qui raconte un mec enfermé dans une tour de verre qui essaie d'en sortir et tout. Bon, mais ça m'a confronté à l'écriture, tu vois, ça m'a dit,
faut souvent écrire un premier bouquin,
ouais, je pense,
avant.
Ouais, de le jeter aux oubliettes. Après, j'ai testé deux trois autres histoires, mais j'avais pas vraiment de méthode, tu vois, j'écrivais un peu comme ça. Et après ce bouquin, en fait, ça a démarré, je suis allé voir par hasard l'expo Scorsese à la Cinémathèque, tu vois. Et puis j'ai bloqué un peu sur Taxi Driver, et là j'ai pigé que Taxi Driver, c'est l'histoire d'un soldat, d'un ex-soldat de la guerre du Vietnam qui est chauffeur de taxi à Paris. Et je me suis dit, ah ouais, mortel l'idée. Moi, j'ai envie de faire la même chose sur un chauffeur de Uber à Paris, et par son personnage, j'ai envie de raconter l'époque. Peu de temps après l'expo, je suis dans un Uber, je parle avec le type, tu vois, je discute avec le type et je dis, bon, tu gagnes bien. Il me raconte un peu, il me dit, oh, au début je gagnais bien, maintenant moins. Je vois qu'il y a un sujet à raconter, et puis il me dit, en plus le truc galère, c'est que mon daron, il est chauffeur de taxi et il voudrait me revendre sa plaque. Et du coup, on est en embrouille, et ça me saoule, et nanana. Et là, moi, je rentre chez moi, je dis, putain, c'est mortel ce qu'il vient de me raconter. Donc, je note tout. Et le lendemain, je fais une insomnie, je me réveille à 5 du mat. Et comme j'aime pas me lever tôt, tu vois, parce que je sais pas quoi faire, souvent j'écris. Et donc là, j'écris, tu vois, un dîner entre un père et un fils, entre un père et son fils.
J'adore.
Autour de cette histoire-là, tu vois, autour de cette histoire-là. Et donc, c'est le premier chapitre du livre que j'ai retravaillé par la suite. Et je suis parti de là. Et après, je me suis dit, tiens, faut que je crée des difficultés à ce mec dans la vie, tu vois. Autre que la thune. Et je me suis dit, et tiens, s'il avait un frère qui était parti en Syrie. Et donc là, je me suis mis à enquêter sur pourquoi les gens partaient en Syrie. Parce que pour moi, c'était une grande énigme. Tu
parles du djihad. Enfin,
ouais.
De,
ouais. Ouais, donc des gens qui partent en Syrie, tu vois. Parce qu'en fait, il y a à peu près entre 1400 et 2000 personnes qui sont parties. Il y a que 600 combattants. Donc les 800 à 1400 autres, pourquoi ils sont partis, tu vois. Ils partent pas se bastonner. Et donc, j'ai commencé à enquêter là-dessus. J'ai trouvé plein de profils intéressants. Et sachant que la majorité, donc, ne partait pas pour combattre. Mmh. Ils partaient pour rejoindre, selon eux, une utopie, tu vois, un délire. Ils veulent fonder une colonie, un idéal, un truc, selon leurs critères, encore une fois. Et là, tu vois, en lisant, bon, j'ai commencé à construire le deuxième personnage. Et après, je me suis dit, je vais faire un thriller social. Et en même temps drôle, tu vois, avec un personnage fort, qui est pas un héros du genre un policier ou qui sait se bastonner, qui en fait est un héros malgré lui parce qu'il est intelligent, il sait pas qu'il est intelligent mais il gère tout avec intelligence. Donc c'est un chauffeur de Uber assez, tu vois, bien câblé du citron mais
un peu bougon,
ouais. Tu vois, un peu aigri mais en même temps attachant. Et pour moi c'était important que le personnage soit attachant. Et donc et après tu vois, je peux te raconter comment on rend un personnage attachant dans la fiction, tu vois. En fait, il faut qu'un personnage, il ait des faiblesses. Tu vois. En fait, on s'attache aux gens qui ont des faiblesses. On admire les gens forts, mais on s'attache aux gens qui ont des faiblesses. Tu vois. Et donc je vais créer des points faibles. Son frère est un point faible. Son côté foncé est un point faible. Le fait qu'il ait perdu sa mère est un point faible.
Son père l'aime, mais ne le comprenne pas très bien.
Voilà, exactement. Ouais. Également, tu vois, les personnages ont des désirs et ont des envies, et donc ça, il faut bien le matérialiser. Et ça, c'est ce qui fait qu'on on part dans l'histoire avec eux. Tu vois, on s'attache aux faiblesses, et puis après, ils ont des désirs et on s'attache. Donc ça, c'est de la théorie dramaturgique. Il y a beaucoup d'auteurs qui trouvent ça, qui aiment pas parler de ça. Je sais pas pourquoi ils trouvent ça sale. Moi, je considère que la dramaturgie, on va pas cracher à la tronche de Sophocle, enfin de l'Antiquité grecque, ni même de Shakespeare, parce que Hamlet, ça se joue encore, Le Marchand de Venise, Roméo et Juliette, tu vois. Et c'est quand même les bases, les canons de la dramaturgie. Et c'est réexploité par Breaking Bad, Orange is the New Black, Le Roi Lion. Enfin bon, tu vois. Et dans différentes manières. Et je crois qu'un chef-d'œuvre en dramaturgie moderne, quelqu'un qui a fait, tu vois, qui a réinventé ça, ce sont les frères Nolan avec Memento, où là, on casse tout. On casse toute la dramaturgie de ce qu'on connaît. Ouais. Et je pense que ça sera étudié dans 300 ans encore, tu vois, parce que c'est mortel. Ouais. Donc je suis parti vraiment, tu vois, de trucs simples. J'étudiais Le Roi Lion, je regardais comment c'était foutu, la dynamique narrative et tout. Et puis, j'ai fait Grand Frère.
Mais on peut juste revenir. Moi, j'ai un peu le sentiment que tu as créé une langue. Il y a une langue particulière, donc c'est la langue de la. J'aime pas ce terme, mais entre guillemets de la banlieue.
Ouais.
T'as bossé là-dessus ou ça t'est venu
naturellement? Ouais, non, j'ai bossé vachement. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à écrire, le personnage parle. Les deux personnages parlent à la première personne dans le livre. Je me suis dit, si j'utilise les codes de la narration qu'on nous enseigne à l'école, imparfait, pas assez simple, je vais sonner fou parce qu'aucun chauffeur de Uber ne parle comme ça. Et tu interviewerais un chauffeur de Uber dans ton podcast, il parlerait pas comme ça, tu vois. Et s'il se mettait à parler à un parfait passé simple, on trouverait ça drôle ou ça sonnerait faux. Et je me suis dit, bon, au fond, les conventions littéraires, c'est très bien, tu vois, l'usage de la langue, mais en fait, il n'y a pas de bonne manière de parler, il y a des bonnes manières de se faire comprendre. Et je m'explique, tu vas pas, là, ce que je suis en train de raconter, je pourrais pas le raconter à un enfant de 3 ans, il faut que je m'adapte à son niveau de langage. Je peux pas parler le même français quand je parle à un Américain qui baragouine le français, je suis obligé de m'adapter. Et donc, une langue, en tout cas, un style de langue, ça exprime une pensée. Et pour moi, tu vois, qui est grandi dans un quartier populaire, tu vois, tiens, il y a des expressions, tu peux pas les traduire aussi facilement que ça. Parce qu'il y a une intonation, il y a un rythme, il y a tout un tas de trucs. Donc je me suis dit, tiens, je vais poser ça en littérature et je vais le transformer en objet littéraire. Donc je vais le faire passer de la langue parlée à la langue écrite. Ce qui est pas
évident.
C'est pas évident, ouais. Et du coup, tu vois, je suis reparti. Puis j'ai vu en même temps, tu vois, cette langue, Bon, aujourd'hui, les ados de 20 piges, même plus jeunes et un petit peu plus vieux, ils parlent comme ça. L'autre fois, je parlais avec le fils d'un ancien ministre qui doit avoir 30 ans. Il me disait tout le temps frère, frère, frère. Et je lui dis, bon, détends-toi, je suis pas ton frère. Et grandis un peu, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais ceci dit, il l'utilisait, tu vois. Et donc, ça m'a fait marrer. C'est un peu la manière, tu vois, moi, quand j'ai grandi à Nantes, on disait gars, ouais. gars, ouais. machin. Bon. Ou aux États-Unis, ils disent bro, ou ouais. je sais pas quoi, bon, diggy, mmh. Voilà. Et donc, tu vois, ça m'a amené à m'intéresser à ce que, c'est quoi la langue. Mmh. Et tu vois, tous les gens aujourd'hui qui pensent que le français, c'est comme ça, donc c'est une langue figée, ils se trompent fondamentalement. Je donne un exemple. Si Michel Houellebecq, il avait publié son bouquin il y a 100 ans, donc à l'époque des auteurs classiques, Zola, Huysmans, André Breton, on aurait dit, oula, putain, il sait pas écrire, lui. Mmh. Et si Breton avait publié à l'époque de Victor Hugo, il y aurait eu les mêmes réactions. Et si Hugo avait publié à l'époque Bien de Rabelais, sûr. On aurait dit de la même manière. Et aujourd'hui, tu publies Rabelais, personne ne comprend. Or, en fait, on appelle toujours cette langue le français. C'est une langue qui évolue, qui bouge. Et c'est pas du bon ou du mauvais français. C'est une langue, c'est une variation de la langue. Et ça l'enrichit en réalité.
Bien sûr.
Ça crée des nuances, ça crée tout un tas de trucs. Et donc je voulais faire entrer ça en littérature et que du coup il y a trois histoires dans le livre. Il y a l'histoire du grand frère, il y a l'histoire du petit frère, enfin quatre même, les deux histoires qui se croisent. Et tu danses la Zumba avec la langue française. Tu vois, tu t'amuses, tu découvres des trucs. Et je me suis dit ça va être le gros intérêt pour les vieux. Ça va les amuser de découvrir comment on parle, etc. Parce que les gens ont pas forcément l'occasion d'écouter. Tu vois,
c'est sûr.
Voilà.
Bah, t'as ouvert une porte.
Ouais.
Mais moi, j'ai une question. Quand t'as écrit, tu pensais au prix Goncourt?
Ouais, ça va te faire marrer. C'est-à-dire que, tu sais, moi, quand je fais un truc, je pars du principe qu'il faut que je le fasse de la meilleure manière possible. Tu vois? Et même si c'est tout pourri, tu vois, même si je fais un petit texte, je pars du principe, je me dis. Potentiellement, j'aurai à parler de ce livre si je reçois le prix Nobel, même si ça n'arrivera pas. Mais ça vient encore du sport, ça, tu vois. Je me fais une préparation pour vraiment me mettre à fond dedans, me dire combattre la flemme. Enfin, tu vois, c'est plein de petites méthodes comme ça. Et donc, j'en parlais avec une pote, là, Anna Krisch, qui est auteure également, et je disais, tu sais, quand t'écris, Anne, faut partir du principe que tu vas gagner le plus grand des prix, tu vas gagner le Goncourt. Parce qu'au pire, si tu le gagnes pas, on s'en fout, mais au moins t'auras fait un meilleur livre que si t'y avais pas pensé, tu vois. Et je me mets vraiment dans cet état mental-là, et je me contrefiche de, tu vois, que ça soit un côté un peu narcissique et tout. De toute manière, quand t'es artiste, tu es narcissique.
Bien sûr.
T'as besoin de développer ton côté narcisse. Et d'ailleurs, je fais un aparté, mais en fait, être auteur, c'est pas compliqué. Artiste, c'est pas compliqué. Il faut être hyper narcissique et hyper modeste. C'est-à-dire, il faut vraiment dire que ce que tu racontes est intéressant, en tout cas ce que tu écris, ce que tu fabriques, que tu sois peintre, musicien, écrivain, peu importe, est assez intéressant pour qu'on te lise, sinon tu fais pas en fait. Et en même temps, il faut être hyper modeste pour pouvoir te corriger et améliorer ce que tu fais. Donc c'est constamment un aller-retour entre les deux, et également quand ça marche pas, faut être capable d'être modeste en disant bon, ça a pas marché, tant pis, c'est pas grave, mais tu vois, faut savoir ménager les deux. Voilà.
Et quand tu écrivais le livre, donc t'étais au 1?
Ouais.
Ok, donc t'avais décidé déjà de créer le bouquin au moment où t'étais au 1.
Ouais.
Et après t'es parti pour le finir.
Non, il était fini. Non, j'ai, tu vois, je l'ai commencé celui-là en février 2016 et je l'ai fini en décembre 2016. Ouais. Et j'écrivais le matin. Je travaillais le matin, tous les matins 1h à 1h30, parfois 2h. Bon, c'est pas extraordinaire. Hein. En gros, je me levais à 6h45, 7h. Je m'y mettais assez vite, tu vois. Je me faisais un café, je m'y mettais tout de suite. Moi, quand j'écris, la première demi-heure, elle sert un peu à rien, mais en fait, elle est utile. C'est comme dans le sport, tu vois. En fait, c'est l'échauffement. Ouais. Je me remets dans les lignes, je lis. Et à un moment, hop, le cerveau se connecte et je trouve un phrasé et ça vient, tu vois. Donc, en fait, dans une séance de travail, des fois, il y a 20 minutes d'utile, mais si je fais pas ce que j'ai fait avant, ça sert à rien. Donc, je travaillais tous les matins sans me dire. Je crois qu'il y a un truc très important quand t'écris, et ça, tu l'apprends avec le temps. Pardon. Il y a un truc très important quand t'écris, c'est de se dire la chose suivante. Tu t'en fous du nombre de pages que t'as écrites. Il faut que ça soit bon, tu vois. Faut pas remplir des pages. Faut écrire avec impulsion. Et après, faut garder que ce qui est bon, selon toi. Donc, faut savoir couper. Et donc, j'écrivais la semaine et le week-end, je corrigeais. Donc, je relisais ce que j'avais écrit. Et là, je corrigeais, je coupais, je déplaçais les paragraphes. Tu vois, pour qu'il y ait plus de fluidité.
Tu t'étais fixé une deadline?
Non.
Non.
Si, je m'étais dit, j'aimerais bien faire ça avant mes 30 ans. Ce qui, a posteriori, est une connerie, parce que j'ai publié à mes 31 ans. Et c'est pas très grave, tu vois.
Et la quête de l'éditeur, t'as fait comment?
En fait, j'ai fait un truc que personne ne fait. J'ai connu cet éditeur par mes activités professionnelles, parce qu'on faisait des petits bouquins avec lui quand j'étais au journal. Et donc, on a sympathisé. Un jour, complètement par hasard, on parlait pas du tout de bouquins. C'était un soir de déception amoureuse, tu vois. Je publie un texte sur Facebook, hyper bien le texte. Même quand je l'écris, je me dis, ah ouais, mortel le texte. Vraiment hyper nerveux et tout, hyper narratif, aucun adverbe, aucun parce que, aucun comme, aucun donc, aucun car. Je dis ça parce qu'en fait, quand il y a plus ça dans un texte et tu comprends tout, c'est que le texte il est puissant. Dans la chanson, il y a pas de, dans la chanson, il y a pas de parce que, donc on fait pas tout ça, tu vois. Et pourtant les textes sont forts. Et il m'écrit, il me dit un truc comme je sens une sève puissante en vous, tu vois, un truc un peu de vieux, tu vois. et je me dis tiens, canon, parce que tu vois ce que je racontais au début de l'épisode du podcast là. Quand, tu vois, dans ton inconscient, t'as un truc, j'aimerais bien écrire, là, il y a un éditeur qui se réveille, tu te dis, ah, mortel. Putain, en fait, j'ai peut-être un talent caché, un truc comme ça, tu vois. Donc, je le rencontre, et lui me pousse à continuer à écrire, mais veut que je me lance plutôt sur mes histoires familiales, tu vois. Bon, j'essaye, moi, j'ai vachement de pudeur par rapport à ça. Ça dure quand même un moment, tu vois, un an et demi à deux ans. Et puis, arrive cette histoire de grand frère, et donc, forcément, quand je l'ai fini, je lui ai filé à lui. Et je lui ai filé comme ça, tu vois. Il m'a dit, ça parle de quoi? Je lui dis, lis. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, dans mon travail, je reçois des manuscrits. En fait, je dois pas avoir besoin de lire le résumé. Donc, il faut que, si hein, les auditeurs veulent écrire un bouquin, il faut qu'ils se disent que le texte, il commence à la première ligne. Il faut tout de suite que je sois pris. Donc, si vous commencez à me décrire la météo ou la taille de votre appartement et la déco, non.
Mais même en tant que lecteur, même moi, je ne supporte pas quand c'est trop descriptif.
Voilà, toi, t'es une grande lectrice, tu vois. Il faut qu'il y ait une accroche narrative très vite. Et à défaut, quand il n'y a pas d'accroche narrative, il faut qu'au début, on comprenne, tu vois, que ce soit simple.
Bien sûr.
Mais évitons les descriptions. Allons au cœur du sujet tout de suite. Au cœur du problème, quoi. Et je pourrais détailler tout à l'heure parce que je travaille pour le ciné, donc j'essaie de penser très très vite. Moi, je veux poser l'enjeu du film ou du livre très très vite. Il faut tout de suite.
Donc, non, raconte-moi maintenant ce que tu fais pour le cinéma.
Ah ouais, donc en fait, après Grand Frère, ouais, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est que des rencontres. J'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien perdre mon temps avec eux, parler. Nous, on a passé des soirées à discuter, c'était très chouette d'ailleurs. Et donc là, je vais voir un pote qui avait écrit un seul en scène, qui va le jouer qu'une fois. Bon, je sais pas ce que ça. J'y vais par soutien, tu vois, en me disant bon.
On verra bien.
On verra bien. Peut-être que je vais m'ennuyer, mais bon, voilà, tu vois, c'est cool. Et là-bas, il me présente un de ses potes qui est réalisateur et qui a fait un film qui s'appelle 600 euros. Il s'appelle Adnan Traga. C'est un mec qui avait fait la première web série en France qui s'appelait Passe-Passe la Cam. En 2003, il avait fait à l'époque 10 millions de vues, ce qui était extraordinaire. Ouais. Besson l'avait repéré, il avait fait chiner sur Europa Corp. Et donc, il était devenu directeur de prod là-bas et il allait faire son premier long avec Besson. Ça a duré 6-7 ans, cette histoire. Ça s'est pas fait. Et après, il a fait son premier long tout seul avec 25 000 euros. Ce qui est un budget...
Un long avec 25 000 euros.
25 000 euros, il a fait un long métrage. Ce qui est sorti en salle, qui a fait 6 à 10 000 entrées, mais bon, qui était rentable du coup, qui est sur les plateformes VOD, que je vous invite à regarder. C'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un excellent film.
Tu peux rappeler le titre?
600 euros, ouais. Mais c'est de montrer ce qu'on peut faire avec 25 000 euros en long métrage. Et ça, c'est dingue, parce que moi, je vois des courts métrages faits avec 150 000 euros qui n'arrivent pas à la cheville de ce film, mais impossible. Et ça, vraiment, si vous vous projetez en vous disant « j'aimerais bien être artiste, réalisateur », c'est vraiment montrer qu'avec peu de moyens, on peut faire de très belles choses.
Être créatif.
Être créatif, ouais. Donc 600 euros à Adnan Traga. Et il me le présente, et là, on commence à déconner. Il s'avère qu'on habite à 500 mètres l'un de l'autre, ce qui simplifie les amitiés. On prend un café, je raconte une histoire un peu déconne. Je raconte quand je suis ado, j'achète un scooter volé, tu vois, un gitan à côté de chez moi. Mais pourquoi? Parce que j'avais une nana, une meuf qui vivait à 40 km. Et je voulais aller la voir, tu vois, c'est la pulsion amoureuse adolescente, le désir, tu vois. Tu sais, ton cerveau se déconnecte. Et de nuit, je pars en scooter, tu vois, sans casque et tout. Il pleuvait. En plus, tu vois, c'est en Vendée. Elle habitait en Vendée, donc c'est sur les départementales peuplées d'ivrognes. Non, mais c'est un truc... j'aurais pu mourir, quoi. Et il est mort de rire et il me dit, c'est mortel ce truc. Tu veux pas qu'on fasse un scénario de film ? On fait le voleur de bicyclette, mais aujourd'hui. Tu vois, on part de cette histoire-là. Dis-moi, je trouve ça génial. Et moi, je lui dis, oh, je sais pas, enfin... Ouais, un court-métrage, c'est marrant, mais je vois pas un long. Et de fil en aiguille, on part, et il m'envoie... bon, il lit Grand Frère, il kiffe, et il m'envoie un scénario de film qu'il a écrit pour que je corrige, tu vois. Et moi, il me dit, ouais, regarde 2 heures, vite fait, tu vois. Et je regarde, et je lui dis, je suis hyper franc, je lui dis, franchement, bon, si pour le corriger, il me faut 2 jours. Donc c'est plus un service, c'est du boulot. j'ai dit, je vois l'idée, mais en fait abandonne ce truc. C'était l'histoire d'un mec qui démontait un McDo à l'île de Ré. Okay. Tu vois, je lui dis, on est les gens sont plus là-dedans. Ça, il y a 10 ans, ouais, ça aurait pu être une comédie sympa, mais là, je dis, je le sens pas. Je pense, tu vois, le temps que tu le fasses, on parle de 3 ans, tu vois.
Ce sera Albin.
Ouais, ça va être complètement has-been, laisse tomber, puis ça, c'est faible. Donc, tu vois, et là, il adore le truc. Et il me dit, merci de m'avoir dit ça, tu vois. Et on se met à déconner, de fil en aiguille. Et puis, je lui corrige d'autres trucs, des courts-métrages. Je fais le consultant scénario. Et donc, on écrit un long-métrage ensemble, là, qu'on a fini l'écriture. Et on est en train de le proposer à des prods. Et donc, c'est une comédie, un peu The Full Monty, tu vois, sur un chômeur de longue durée. Qui a pas trop de problèmes financiers, les propriétaires, etc. Mais il lui arrive une galère. En fait, il devient veuf déjà, il perd sa femme, donc il perd en revenus. Et ensuite, il y a des
sympa.
Mais c'est une réalité, tu vois.
Ouais.
Et donc, il se retrouve, tu vois, c'est un monsieur débrouille. Il loue sa chambre en Airbnb, il dort sur son canapé. Il y a des travaux de réfection dans son immeuble, donc il doit sortir d'un coup 20 000 euros, ce qui pour lui est beaucoup, il les a pas. Mmh. Donc, il finit, en écoutant ses amis, il finit par devenir livreur des Livrous. Alors qu'il a 55 piges, il est un peu fatigué, usé, tu vois, il a un peu de bide et tout. Et c'est une comédie. Mmh. Et c'est une comédie parce que l'histoire, c'est pas qu'il devient livreur des Livrous, c'est qu'il a un smartphone. Et donc, c'est un adulte de 55 ans à qui on confie un smartphone. Et toute sa vie change. Il fait des rencontres amoureuses, tu vois. Et donc, c'est un film là-dessus, tu vois, sur la solitude des gens de 55 ans et plus, mais comment ils redeviennent des ados.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Oh, etc. Donc on a fait une vraie comédie.
Il n'y a pas que ceux de 55 ans. Hein.
Non, il n'y a pas que ceux, mais c'est pas beaucoup abordé au cinéma, tu vois.
Non, c'est vrai.
C'est pas une thématique abordée. Mmh. Or, en fait, ils peuvent être hyper drôles. Enfin, il se passe plein de trucs. Et moi, tu sais, j'essaye toujours de travailler artistiquement sur des sujets que je connais pas. Donc je pars pas de moi. En fait, c'est moi qui regarde ce qui se passe ailleurs, tu vois. Et je l'interprète à ma sauce. Voilà.
Juste pour revenir sur Grand Fat, là tu m'as breaking news, donc tu vas être adapté dans 14 pays
traduit.
Traduit dans 14
traduit,
pays.
Traduit, ouais, le livre va être traduit. Ben, il a déjà traduit dans 6 ou 7 pays.
Ouais.
Et donc il y a encore 6 ou 7 traductions à sortir, ouais.
T'as jamais pensé en faire un film ou...
Bah, si, mais à vrai dire, tu vois, j'attends que des boîtes de prod me contactent. Ouais. Il y a eu des pistes pour la télévision, j'ai refusé parce que je trouve que le téléfilm, c'est pas adapté, tu vois.
Non.
Mais demain, je vois le réalisateur Nabil Ben Yadir, qui avait fait Les Barons et La Marche des Beurs. On m'a dit qu'on avait à peu près un peu la même personnalité, dans le sens où lui, il est très branché sur l'artistique et il se met pas de limites. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Donc, je le vois demain. Faut pas que j'oublie de l'appeler, d'ailleurs.
On croise les doigts, alors.
Et je pense que ça va marcher, parce que c'est quelqu'un avec qui il travaille déjà, qui lui a dit, ton prochain projet, faut que ce soit celui-là, vous êtes fait pour vous rencontrer, donc on va voir, peut-être que ça marchera pas.
Mmh.
Mais je pense plutôt à une série en 8 épisodes de 40 minutes, un truc comme ça, tu
D'accord.
vois. Je vois plus, j'aime bien ce genre de format aujourd'hui.
Mmh.
J'aimerais bien que ce soit sur Netflix, pour plein de raisons, tu vois. Il y en avait une piste avec Studio Canal, mais l'audience est assez réduite aujourd'hui de Studio Canal. Netflix, l'audience est pas mal. Et ciné, je trouve que c'est compliqué de faire un film sur Grand Frère, qui est un livre où il est pas très long, mais l'histoire est quand même longue, ouais, dense. Il y a une partie en Syrie, en France, en Turquie et tout. Donc, j'ai pas envie qu'on coupe vachement. Tu vois, je donne un exemple, mais un immense livre de 750 pages, génial, Le Monde selon Garp. Lisez-le les yeux fermés, c'est de la bombe. Ils ont fait un film à l'époque de 2h30. Bah, tu peux faire une série de 3 saisons.
Bien sûr.
Et en fait, dans le film, tu perds tout l'humour du livre, qui est un humour extraordinaire.
Ah ouais, il y a des adaptations à pas faire.
Ouais, voilà.
Autre chose, t'as un autre bouquin qui va sortir dans pas longtemps.
Ouais. Donc, je viens de finir un bouquin. J'ai remis la deuxième version à mon éditeur il y a 10 jours. Mmh. Il sort en mois de mars. Le pitch, il est hyper simple. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Chance, qui est le français moyen par excellence. Il a 42 ans, il fait 1m75, il pèse 72 kilos, il gagne 2 281 € et 53 centimes. Donc il a le salaire médian. Et un jour, ce mec, il se réveille dans un monde dominé par les femmes. Mmh. Et il se réveille à l'hôpital. Donc on commence par son histoire à lui. Puis au bout de 2 chapitres, l'histoire elle bascule à la première personne. Il y a un écrivain qui parle, qui dit « J'arrête, j'en ai marre, ça me saoule, Paul Chance me saoule, ils me saoulent tous. J'arrête, je veux plus parler de la Gaule, d'Erette. La Terre s'appelle Erette dans cet autre monde. » Et on comprend qu'en fait, c'est un écrivain qui a écrit ce bouquin.
La Terre.
Erette, c'est l'inverse de la Terre. Donc c'est le monde, en fait, ce qu'on a lu au début...
En hébreu, c'est Erette.
Ah ouais, voilà. Ouais. Ce qu'on a lu, tu vois, en fait, c'était la création d'un écrivain qui était en train d'écrire. Et cet écrivain, il décide de jeter son bouquin à la poubelle parce que son éditeur lui a dit que c'était pas bon. Et à peu près au même moment, qu'il est en crise, qu'il a pas de thunes, qu'il se dit « Merde, je vais pas toucher mon avance, mais ça le saoule, il en a marre, ça fait trop longtemps qu'il travaille là-dessus. » On comprend que c'est un écrivain qui a développé en lui une sorte de féminisme très engagé. Il explique pas pourquoi au début du livre, mais par contre on voit que sa meuf c'est une avocate pénaliste très vénère, hyper assez drôle, mais elle fait du karaté, de la boxe, et quelqu'un l'emmerde dans la rue, elle l'assomme en tout cas. Tu vois, elle se défend, et lui c'est un mec qui s'est jamais battu. Donc là il raconte un peu son enfance, et sa mère lui avait laissé les cheveux longs parce qu'elle voulait une fille, donc elle l'avait élevé un peu comme une fille, et donc lui il a connu les deux, c'est-à-dire sa mère a voulu qu'il soit une fille, et après il a découvert au collège ce que c'est d'être un garçon et d'être dans un milieu de garçons. Et donc ce mec là quand sa meuf passe sa ceinture noire de karaté, elle réussit, il soupçonne que sa copine le trompe avec son prof de karaté, et donc la nuit, c'est un tout petit spoiler au début du livre là que je donne, la nuit après qu'ils aient fait l'amour, Noé, donc c'est le nom du personnage, il c'est un grand rêveur, tu vois, je me suis beaucoup inspiré de moi, il rêve tout le temps, tu vois, des fois il s'arrête, il regarde un lampadaire, et il se tape un délire avec le lampadaire et tout. et moi j'assume tout ça, hein, j'ai aucun problème avec tout ça.
T'as bien raison.
Ah ouais, j'ai aucun problème. Je fais des trucs très rationnels dans ma vie, des business plans, des budgets, des réunions d'actionnaires. Donc, j'ai bien le droit de me marrer, tu vois, de fumer des joints et tout. Et là, pendant qu'il lui fait l'amour, tu vois, ils font l'amour et tout, ils se tapent un délire, ils voient Gérard Depardieu. Enfin bon, bref. Et à la fin, quand elle dort, il se dit, viens, je regarde dans son téléphone, mais il sait pas comment. Et là, il a une intuition, il prend sa main. Et avec son doigt, il appuie sur son smartphone pour le déverrouiller. Et il déverrouille le smartphone de sa meuf avec le doigt de sa meuf.
Ah,
tu vois ?
Pas mal, j'y avais pas pensé,
ouais,
ça.
Ouais, bah moi non plus. J'ai trouvé ça pour le livre et j'étais hyper content. Et donc j'ai utilisé exactement.
Mais faut pas qu'elle se réveille.
Non, non.
Sauf que.
Donc il lit tout. Et au moment où il se met à chialer dans son lit, elle se réveille, il s'embrouille et il prend la première décision courageuse selon lui dans sa vie. Il se casse. Il dit c'est fini, il se barre. Sauf que le lendemain. Elle lui répond plus, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle publie le livre sur les réseaux sociaux en disant que c'est elle qui l'a écrit. Elle, c'est une avocate féministe un peu connue et tout. Et là, lui, il est vénère. Et surtout, son éditeur, il lit le passage. Tu vois, il lit le passage et il dit, tiens, c'est mortel ce que je suis en train de lire. Et là, Noé comprend qu'il lui a envoyé le mauvais manuscrit. Il lui a envoyé un vieux brouillon, le premier jet. Il se dit, merde et tout. Et donc, voilà. Donc, il y a des histoires parallèles. On suit Paul Chance d'un côté.
D'accord.
De son réveil jusqu'à la fin.
Encore deux histoires en une. Quoi.
Ouais, deux histoires en une. Et on suit Noé de l'autre côté avec toutes les aventures, comment il a écrit ce livre, comment il va récupérer son bouquin.
Génial.
Et donc on suit la vie des trentenaires à Paris, leurs histoires d'amour, les doutes, est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on fait pas d'enfants, etc.
Il y a
de
quoi lire.
Donc j'ai voulu faire un livre vraiment générationnel sur ma génération, parisien, bobo. Parce que même quand les gens critiquent les bobos, en fait, très souvent, ils sont eux-mêmes des bobos.
Ouais,
donc, faut assumer, il y a un moment, voilà, tu vois.
Ça sort quand?
En mars.
Okay.
Et donc, ça s'appellera Moitié d'humanité.
Génial. Tout à l'heure, tu parlais de prendre de la distance sur la France.
Ouais.
Donc, t'es parti un an en Allemagne.
Ouais.
T'en penses quoi de la France aujourd'hui? Justement, avec cette prise de distance.
Écoute, il y a plein de trucs, en fait, tu vois. Si tu veux,
la question est super vaste. Hein, donc
bon, le premier truc, si tu veux, quand tu vas dans un... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de pays centralisés au monde. Mmh. Et très souvent, les pays centralisés sont des pays pauvres. Donc en fait, la France, c'est une énigme dans son organisation politique. Il y a le Danemark qui est centralisé, par exemple, qui est un pays riche. Mais l'Italie n'est pas centralisée, l'Espagne n'est pas centralisée, le Portugal n'est pas centralisé, il y a deux grandes villes. L'Allemagne, c'est un État totalement décentralisé, tu vois. Les États-Unis... La France est un pays centralisé. Et donc, je pense que ça pose tout un tas de problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont concentrées à Paris. Et en fait, à l'échelle du territoire, on n'a pas assez de concurrence. Je prends le cas de l'Allemagne. Il y a en gros trois villes qui font à peu près la même taille, Berlin, Munich, Hambourg, qui ont à peu près le même poids économique. Et ensuite, il y a à peu près 7 villes qui sont en concurrence avec des régions très fortes. Dans toutes ces régions, il y a des grands médias. Ce qui veut dire que si t'es un gars de Bordeaux, t'as autant de chances d'être connu que si t'es un gars de Paris ou une fille, tu vois. Mais ce qui crée une concurrence, en fait, sur le territoire.
Il n'y a pas la prévalence d'une seule ville.
Exactement. Mmh. Donc, ça veut dire que, tu vois, moi, j'aurais pu rester à Nantes, par exemple. Et devenir auteur en restant à Nantes et tout aussi connu. Mais ça crée une dynamique dans le territoire. Les villes sont en compétition. Et les gens se déplacent. Quand il y a une opportunité à Munich, ils partent d'Hambourg à Munich. Mais tu vois, donc
il faut monter à Paris. Quoi.
Bah nous, faut monter à Paris, et tout se décide ici. Et d'ailleurs, je pense que tu peux pas être maire de Paris quand le pouvoir exécutif est à Paris, parce qu'en fait, si tu veux faire un trottoir, il suffit que le président te passe un coup de fil en disant ouais, mais moi ça me plaît pas. Et donc on vit quand même, tu vois, on a fait la révolution, tout un tas de trucs, mais en fait, le pays était beaucoup plus décentralisé à l'époque de l'ancien régime, parce que le roi était obligé de négocier avec le duc de Bretagne, le duc de Bourgogne. C'était des négociations. Aujourd'hui. Et encore plus, depuis qu'Emmanuel Macron a coupé la taxe d'habitation, vous vous rendez compte qu'un maire, il décide même plus de l'impôt qu'il lève.
Enfin, il l'a coupé...
En partie, pas pour tout le monde.
Je viens de la payer.
Ok, c'est vrai. Non, mais il a coupé en partie. Donc
ouais,
en fait, il y a une quote-part et tout. Donc c'est le premier truc que tu vois, c'est que l'organisation politique ne nous rend pas compétitifs. Mmh. Et là, je parle sur un terrain complètement économique. Régionalisé, ça veut dire rendre ton pays hyper compétitif, tu vois. Et ça, il y a des solutions pour arriver à faire tout ça. J'en suis persuadé, tu vois. L'autre truc, si tu veux, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas des gens latins. On est des Allemands qui se prononcent pour des Italiens. Je m'explique. On est des gens hyper moraux. On n'est pas des gens rationnels. On est des gens hyper moraux, tu vois. On juge beaucoup de choses sur la morale. Tu vois, vraiment, ça se fait,
c'est
ça se fait
du
pas.
Aussi,
pardon?
C'est l'héritage du christianisme.
Le catholicisme.
Le catholicisme,
tu vois.
Pardon.
On est des gens hyper moraux, là où c'est vrai que les Allemands, ils vont être moraux sur toutes les questions sociétales et sociales, tu vois, ils vont avoir une vraie moralité. Sur les questions économiques, c'est des gens pragmatiques et rationnels. Vraiment. Tu vois. C'est ce qui les rend performants. Tu vois, aujourd'hui, ils ont une industrie, c'est impressionnant, l'Allemagne, l'industrie. Tu vois,
ils ont encore des
potes ingénieurs en Allemagne.
Ouais,
mais tous tes potes sont ingénieurs, quoi.
Ou des copines
d'ailleurs. Et c'est des trucs assez stylés, tu vois. J'avais plein d'amis qui travaillaient chez Airbus.
Ouais, je sais.
Ils me racontaient les avions, machin et tout. C'est de l'industrie stylée, tu vois. On parle pas des pots de peinture et tout, quoi.
Ouais.
C'est des trucs, ils te parlent de moteurs.
Puis
tu sais, dans le ciel d'Hambourg, t'as constamment le Beluga qui tourne. Le Beluga, c'est un avion qui transporte les avions. C'est un immense avion bleu ciel, enfin, bleu turquoise, et qui ressemble à une baleine, et qui vole dans le ciel, et qui emmène les avions à Toulouse, à Londres et tout. Et donc, c'est un peu ce regard-là que t'as sur la France. Autre chose, tu vois. C'est pas tant la France, c'est Paris. Moi qui étais là en me disant ouais, c'est la meilleure ville du monde et tout, bah après avoir vécu un an ailleurs, je me questionne vraiment, tu vois, en me disant c'est cool. Bah en fait, t'as vraiment à Paris, ce qui est cool, c'est que tu peux te créer un cercle amical et tu deviens ami avec les gens. En tout cas, t'es dans une relation amicale assez vite. Ça, c'est hyper cool. Les gens vraiment ont ce don, tu vois, de se marrer.
Ah, tu trouves?
Ouais, je trouve vraiment. Vraiment.
Ah ouais.
Ouais, c'est, même nous, tu vois, en Allemagne, c'est plus méfiant. Ils sont
d'accord.
Plus froids et tout. Et c'est vrai que tu vois les amis que je me suis fait assez vite étaient soit des Français, soit soit des gens qui venaient de pays francophones ou de pays latins. C'est peut-être ce qui nous reste de côté latin, je disais. C'est des Allemands qui se prennent pour des Italiens. Il y a un côté latin là-dedans, tu vois, parce que tu te prends pour quelque chose. Mais tu vois, ça, c'était un peu... Donc ça, j'aime beaucoup. Mais si tu veux, moi, je serais ravi, tu vois, qu'aujourd'hui, Paris soit une ville qui devienne propre.
Ouais.
Parce que c'est pas normal. Tu vois, la première semaine où je suis revenu, j'ai marché 3 fois. Tu vois, tout le monde doit voir ce que c'est. C'est une espèce de flaque d'eau qui traîne le bord des trottoirs sur la route.
Ouais,
là.
Oui, je vois bien. Ouais.
Mais je sais pas. Je suis allé à Vienne cette année. Je suis resté une semaine à Amsterdam. Je suis allé en Berlin, Munich, La Haye, Utrecht, Bruxelles et tout.
Nickel, ça.
Mais il y a pas ces flaques d'eau.
Ah bah non.
Ça sort d'où? Et pareil, les clubs par terre, tout un tas de trucs. Je peux donner un exemple. Moi, j'adore les concerts punk.
Ouais.
Je sais pas que j'aime particulièrement la musique punk, mais dans un concert punk, j'adore regarder l'énergie des gens. C'est impressionnant, tu vois. Les artistes et le public déversent une énergie, les pogos et tout, là. Moi, j'ai jamais fait ça, mais je regarde, je me dis, bon, waouh. Et je vais dans un concert punk, dans un blockhaus, tu vois, là-bas, un blockhaus, pas comme qu'on a en Bretagne, hein, tu vois, un truc de 4 étages immense.
C'était où?
À Hambourg.
Ok.
Qui s'appelle, Uber and Gefährlich, ça veut dire au-dessus et dangereux. C'est le nom du lieu. Et concert punk et tout, j'écoute le truc. Et à la fin, le chanteur, il y avait que des punks, tu vois, et des darons et tout. Et le mec prend le micro, il dit en anglais. Et c'est drôle parce que tout le monde a compris ce qu'il a dit. Et ça, c'est aussi une grosse différence. Il a dit, bon les gars, c'était cool la fête, mais maintenant, il faut prendre les bouteilles, il faut les mettre au recyclage. J'adore. Et tout le monde l'a fait. La salle, elle était propre.
C'est incroyable.
Et ça, tu te dis, ah bah voilà, ils savent faire des trucs qui sortent des clous.
Ils sont disciplinés.
Ouais, enfin, ils sortent des clous, faire les fous et tout. Et après, quand il faut nettoyer, bah ils nettoient et c'est cool. Mmh. Et ils sont contents de le faire. Mmh. Donc ça, c'est cool. L'autre chose, c'est que tout le monde parle anglais. Et ça, faut vraiment que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire, il n'y a plus d'excuses. Moi aussi, j'étais mauvais en anglais, mais maintenant, je sais parler anglais. Avec des fautes, c'est pas grave. Les gens comprennent, c'est cool. À Hambourg, par exemple, j'ai un clochard. Un jour, je voulais pas lui donner d'argent, donc il m'avait parlé en allemand, donc j'ai répondu en anglais. Là, il m'a parlé dans un anglais hyper bien, mieux qu'Emmanuel Macron à la CNN, avec toutes les phrasal verbs, tu vois, les as well, les machins et tout. On a commencé à papoter. Je me suis dit, même le clodo, il parle mieux que le président en France. Et je mens pas, c'est véridique, tu vois. Donc non, ça, c'est cool, mais je pense que vraiment, en s'inspirant de l'étranger, il y a moyen de faire un pays, parce qu'on a un super pays. Enfin, franchement, faut s'en rendre compte, on a un super pays.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas de raison qu'on ait cet espace d'âme dépressive tout le temps, de gens qui expliquent que c'est, il y a des trucs qui vont pas et tout. Alors qu'en fait, ce qui va pas, c'est pas ce que les gens racontent, c'est des trucs pragmatiques, simples, de propreté, de pollution sonore aussi. Paris est une ville avec une pollution sonore très très forte. Donc, ouais, ça va aller, c'est cool, mais la SNCF en France, ah, voilà, un truc différent, mais c'est le meilleur service de train au monde. La Deutsche Bahn, c'est nul, tout le temps en retard, hyper cher. Et puis, un exemple, Paris-Marseille, 2h40, 900 km, Hambourg-Berlin, 200 km, 2h.
C'est ça, dire qu'on se compare par rapport à ce qui... Enfin, on se compare, mais dans le sens négatif.
Les gens sont dépressifs. Mais tout le monde est dépressif, tu vois.
Ah oui, ça,
les riches, ils sont dépressifs. Les pauvres, ils sont dépressifs. Ils vont sur les ronds-points. Enfin, pas tous, mais en une partie. Les lascars, ils sont dépressifs. Ils disent, ouais, on nous maltraite. Ce qui est pas vrai. Ce qui est vrai, pardon. Il y a des trucs. Mais tu peux aussi regarder le bon côté, tu vois. Les gens qui disent, ouais, on n'a jamais de chance et tout. Bah, si. Il y a des gens qui s'en sortent, tu vois. Et c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Donc, faut mieux se dire ça. Bon, on est en train d'améliorer, tu vois. Bon, pardon, je suis en train de dépasser l'heure.
Pas du tout, non.
Mais c'est ça que j'ai appris, tu vois, j'ai appris à connaître mon pays et à l'aimer et à kiffer la bouffe.
J'ai entendu une phrase il y a pas longtemps qui m'a fait rire, c'est arrête de dire le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Prends un autre verre et puis arrête de nous casser la tête.
Ah,
quoi,
bah, genre, bien. Voilà, génial.
2 secondes quand même sur un truc. J'ai entendu une interview de toi qui parlait d'identité française et je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais parce que tu parlais de la dichotomie entre le fait de dire à quelqu'un t'es français ou t'es pas français.
Ouais.
Et j'aimais bien ce que t'avais raconté. Alors je te laisse raconter.
Ouais.
Mais justement, c'est quoi l'identité française pour toi?
Bah en fait, faut déjà parler de... Je suis ravi que tu me poses la question, tu vois, parce que... En fait, faut déjà définir ce qu'est l'identité. C'est ça le point de départ. En fait, si tu penses que l'identité, elle est exclusive, tu te trompes tout de suite. Tu sauras jamais qui t'es. Et tu te sentiras toujours à côté de la plaque et t'essaieras de rentrer dans un moule. Et comme le dit l'expression populaire, il y a que les tartes qui rentrent dans les moules, tu vois. Non, mais, en fait, l'identité, il faut partir du principe que, y a des cultures et chacun a une identité qui est personnelle et unique. L'identité, ça démarre avec la famille de ton père et de ta mère si t'as deux parents. Donc toi, t'es un mariage toujours de deux familles, souvent, et de deux personnes. Mmh. C'est ta première identité, tu vois, jusqu'à tes un ou deux ans. Après, tu commences à sortir dehors et t'as d'autres identités qui se superposent, c'est ton quartier, et puis ton école maternelle, et puis ta vie, la ville où t'es, la région, le pays, le continent, sa culture, son histoire, et puis tes passions. Moi, j'aime le basket, toi, t'aimes les podcasts. Les langues que tu parles, les séries que tu regardes. Une fois que tu as constitué cette identité qui est personnelle, tu fais partie d'une culture. Là-dedans, il y a une culture française, tu vois, bien entendu. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui te permet de créer des points de contact à partir de ton identité avec d'autres ? C'est les cultures communes. Pourquoi nous, on s'est parlé ? C'est parce que t'aimes les bouquins et moi, j'aime les bouquins. Donc forcément, on a créé un point de contact. Mm-hmm. Comment je me suis fait des potes camerounais et ingénieurs à Hambourg ? C'est parce que je joue au basket et ils parlent français. Mm-hmm. On a deux points de contact. Et donc en fait, quand tu raisonnes l'identité comme ça, tu solutionnes un problème fondamental de l'humanité de manière générale, c'est eux et nous. Bien tu sûr. Vois, tu résous un truc. Ça te permet de te dire, putain, en fait, je suis qui ? Je veux pas dire que tu mets notre culture française qu'on a en chacun de nous, je la mets pas au même niveau que jouer au basket. Bien sûr que la langue que tu parles est pour moi le vecteur principal, tu vois, pour s'exprimer et pour créer des contacts avec les gens, c'est les langues que tu parles. Il y a un proverbe grec qui dit plus tu parles de langue, plus tu es de personne. Et tu es une personne par langue. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Je suis pas exactement le même gars quand je parle anglais et quand je pense en anglais ou je pense en allemand ou je parle en turc. Tu vois, je suis quelqu'un d'un peu différent. Et donc, tu vois, cette identité, je pense que ça solutionnerait beaucoup de problèmes que des gens vivent dans ce pays, tu vois, s'identifier. Est-ce que je suis français, pas français, machin et tout. L'autre chose, tu vois, sur l'identité, l'extrême droite a été assez douée, tu vois, elle nous a implémenté un truc dans la tête qui est la notion de français de souche. En fait, pourquoi déjà c'est faux ? Il y a une vérité là-dedans, mais en fait, le concept est faux. Et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de gène français, tu vois. Sur les lignes d'ADN, il n'y a pas de gène français. Bien entendu, les gens sur le territoire français ont un patrimoine génétique plus ou moins proche, ce qui va te distinguer des autres. Mais en fait, si tu vis à Nice, ton patrimoine génétique va être plus proche des gens du Piémont que des gens de Lille, tu vois, forcément. Donc en fait, tu peux pas faire une analyse génétique et dire français de souche, machin chouette. D'ailleurs, tu compares des gens de Perpignan et de Lille, ils ont pas la même tête. Mais c'est pas grave. Ça veut dire on est quand même français, tu vois. Qu'est-ce que tu peux remplacer par français de souche ? Bah, il y a français d'héritage, c'est hyper beau. Qu'est-ce que tu peux remplacer par français de papier qu'ils aiment bien utiliser ? Bah, t'as français de désir ou français d'adoption. Tu vois, et c'est des expressions positives. C'est comme ça que tu vois, tu peux influencer avec le langage positivement la société. Les gens qui se sentent moins français, tu peux leur dire mais si, t'es français de désir, t'as demandé à être français. Et même si un tout petit pourcentage de ces personnes l'ont fait pour de mauvaises raisons. Tu peux les remettre dans un rail positif. De toute manière, ça sert à rien d'assigner les gens en disant vous êtes nuls, vous êtes bêtes et tout. On ne change rien en faisant ça. Même s'ils n'ont pas fait ce qu'on voulait et ce qui est pas bien, vaut mieux essayer de les remettre dans le rail en les motivant. Ce conseil vaut, tout manager le sait, taper sur la tête, ça marche plus. C'est du passé, voilà. Donc, si tu veux, tu vois, l'identité, cette réflexion, je l'ai développée après le livre en me disant comment je donne des clés aux gens, tu vois, des clés de compréhension qui sont positives. Moi, je me sens pleinement français, ce qui veut pas dire que j'ai une part d'identité turque et kurde en moi. Mais je peux pas dire que je suis turc ou kurde, j'ai pas vécu dans ces pays, mes parents le sont, tu vois, jusqu'à 26 ans, ils vivaient là-bas. Moi, je peux pas le dire, j'ai une part de cette identité, mais je suis aussi nantais, je suis aussi parisien. Maintenant, j'ai une part d'identité en bourgeoise en moi, j'ai vécu à Londres, je parle anglais, et j'ai plein de trucs en moi, et tu te sens beaucoup plus riche d'un coup. Et ça, tu vois, je l'ai fait avec des ados, ce module sur l'identité, je l'ai fait à Madagascar, où les gens sont émalgaches, mais parfois un peu français, mais viennent d'une tribu également, bah, ça permet de se réconcilier, tu vois, de se dire, ouais. Et quand t'es un homme, ça permet de reconnaître que t'as une part de féminité en toi, et vice versa, quand t'es une femme, tu peux rendre compte que t'as une part virile, une part masculine en toi, et tu l'assumes. Et moi, en fait, ce parcours est né. J'ai lu un bouquin d'Amin Maalouf qui s'appelle Les identités meurtrières, qui expliquait, tu vois, toutes les. Au Liban, on est libanais, mais on est toujours issu d'une minorité religieuse. Et donc, il faut trouver un point d'entente. Et donc, du coup, lui donnait là-dedans, tu vois, comment faire pour s'en sortir là-dedans, que les identités ne soient plus en opposition, mais soient en association. Voilà.
C'est magnifique.
Et là-dessus, tu vois, je parle vite et tout, machin.
J'adore tout ce passage est exceptionnel. Alors là, franchement, bravo.
Mais tu sais, j'en ai parlé avec plein d'amis, tu vois, y compris des gens qui ont une foi religieuse. peu importe la religion d'ailleurs, mais tu sais qu'ils sont dans des conflits de loyauté. Des gens qui savent pas dire, je sais pas si je suis français, marocain ou français musulman ou je sais pas quoi. J'ai un ami, Élie, il vit à peu près la même chose avec le judaïsme et le sionisme. Il sait jamais se positionner, ça le dérange et tout. Et en fait, tu vois, quand on en parle, c'est hyper libérateur, tu vois. Il peut assumer le fait de dire, bah, j'ai une famille qui pense ça, moi je pense pas ça, mais j'assume l'héritage culturel de ma famille. Et en fait, il se met à distance aussi en même temps.
Bien sûr.
Et tu vois, il se sent hyper libre. Et là où avant ça le rendait triste, maintenant il s'en marre. Et on s'en marre. Moi aussi, j'ai ce même genre de rapport problématique à ma culture. Je suis pas né parfait, hein. À 18 ans, je pensais pas de tout ça. Mais en fait, bon, la vie est un parcours, on apprend des trucs. Et quand je disais mon passage de l'adolescence à l'âge adulte, cette question de l'identité, tu vois, ça en fait vachement partie. Tu vois. Et moi, j'ai pas de. Tu vois, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est ça être français. Tu vois.
Bah, ça arrête les gens. Donc ça arrête les gens, donc ça crée des conflits.
Moi, je mets au défi quelqu'un de me donner une définition unique de ce que c'est être français. Par exemple, moi, j'adore le fromage. Ma meuf, qui est française d'héritage, elle déteste le fromage. Bon, bah, qui est français dans l'histoire, tu vois?
Bah, hier, t'as un coup de cœur récent ou pas? Un film, une série? Bah là, forcément, il y a ton projet de cinéma, donc, dont tu nous as parlé. Mais est-ce que là, récemment, t'as un truc dont tu veux parler?
Bon, j'ai parlé pas mal de bouquins, donc je vais éviter. Mais ceci dit, j'en cite un hyper bien, Seul dans Berlin, Hans Falada. Pour moi, l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie.
C'est vrai.
Pas compliqué. Ça se passe à Berlin en 1940, dans un immeuble. Le pitch, c'est un couple perd son enfant à la guerre, qui a été appelé à la guerre sur le front russe. Et en fait, ils décident de résister à Hitler, mais comme ils peuvent rien faire. Bah, ils écrivent des cartes postales anti-nazis et ils les laissent dans les halls d'immeubles. Et un inspecteur en trouve une et il se met à leur poursuite, sachant qu'il risque la peine de mort. Et donc, c'est un vrai faux thriller, mais c'est génial. C'est long, 700 pages, mais par contre, ça se lit hyper vite. Mmh. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de concept compliqué. C'est un truc à adapter en série qui serait aussi bien que Breaking Bad. C'est génial. Vraiment, moi, je recommande à tout le monde. Il y a des scènes mythiques et ce livre n'est pas connu pour une seule raison, c'est que l'auteur, il l'a écrit juste après la guerre, il est mort juste après. Il était en RDA, donc le livre appartenait à un éditeur de la RDA. Il est réapparu en Allemagne qu'après la réunification. Mmh. Et nous, on l'a connu assez tard, du coup.
Okay.
Et on a eu une nouvelle traduction il y a quelques années. Donc, tu vois, des fois, il y a des bijoux comme ça qui sont enterrés. Il y a des trésors.
Des
tu
trésors,
vois.
Ouais.
Donc, il y a ça. En ciné, je vais donner deux trucs. Il y a un truc que j'ai vu qui est une production indépendante belge qui s'appelle King of the Belgian, qui est une comédie qui est géniale, qui a hurlé de rire. Vous pouvez la voir sur la petite plateforme de cinéma qui s'appelle eCinéma. E-cinéma, en fait, le principe, c'est que c'est un abonnement très peu cher, à 5 euros par mois, mais vous avez que des films indépendants étrangers. Moi, j'adore voir des films. E-cinéma, c'est e-cinéma.com. Moi, j'adore le cinéma étranger parce que ça me permet de voir d'autres cultures, de découvrir. Il n'y a pas que des films d'auteurs chiants qu'on voit dans les salles de cinéma d'auteurs où on s'ennuie, tu vois, où il y a des plans sur. Ouais, d'arrêt d'essai. tu sais, les plans sur des feuilles mortes pendant 4 minutes qui tremblent.
C'est pas Arte du tout. C'est la nuit.
Voilà. C'est pas du tout ça.
J'adore Arte.
King of the Belgian, c'est une pure comédie belge.
Okay.
C'est un réalisateur qui veut faire un documentaire sur le roi de Belgique. Et donc il le suit à Istanbul, il doit là-bas inaugurer un mini-golf que le royaume de Belgique offre à la Turquie pour les enfants. Donc c'est déjà, tu vois, déjà dans la comédie belge. Et là, à un moment, son assistante arrive et lui dit « Sire, la Wallonie a fait sécession, il faut absolument rentrer pour rétablir l'unité du pays. » Et là, il dit « Ok, on part. » Et quand il arrive à l'aéroport, on lui explique qu'il y a une sorte de champ magnétique avec des pluies de météorites et que les avions sont arrêtés, comme à l'époque du volcan avec le nom chelou en Islande, tu vois. Et donc, ils sont coincés à Istanbul. Et lui, comme il tient à son pays, il décide de partir un peu à l'improviste. Donc, il monte dans un car en se déguisant en danseuse bulgare. Il se mélange à un groupe de danseuses bulgares. Et c'est un road trip dans les Balkans jusqu'à la Belgique. Et c'est
génial.
À hurler de rire. Okay. Mais vraiment, moi, je pensais que c'était un délire perso. Je l'ai envoyé à plusieurs amis qui l'ont regardé sur la plateforme eCinéma.
Okay.
Je vous donne pas mes identifiants. Abonnez-vous pour un mois à 5 euros, ça vaut le coup. C'est à hurler de rire. C'est vraiment bien et ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont pas sortis au ciné en France.
Ouais,
c'est le principe de la plateforme. Donc voilà, et puis
Et est-ce que t'as un coup de gueule
sur un truc artistique et tout?
Non, un truc que t'as envie de dire, un truc qui t'énerve, qui t'a énervé récemment, un truc
Je dirais que de manière générale, en fait, ce qui me gonfle dans les médias aujourd'hui, c'est que En fait, il y a que des gens extrêmes qui s'opposent. C'est-à-dire,
on veut exciter les gens dans les
voilà, on veut exciter les gens et je trouve qu'en fait, ça, vraiment ça tue le débat. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ne veulent plus écouter les médias. J'en ai un qui a arrêté, qui m'a dit ça me calme, ça me repose.
Bah moi, j'en fais partie.
Bah t'en fais partie, tu vois.
Enfin, j'écoute Radio France le matin.
Ouais, bah voilà. Et en fait, si tu veux, j'ai écouté le discours d'Éric Zemmour, tu vois, par curiosité. Bon, c'est quelqu'un qui a une plume de talent quand même. Je partage pas du tout ses idées, bien au contraire, je suis complètement à l'opposé. J'adorerais débattre avec lui d'ailleurs, tu vois, sur la notion de France, machin et tout, parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas mal d'arguments. Mais je pense vraiment, tu vois, j'ai des questions sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi sur bah justement notre rapport à l'histoire, notre rapport à la tradition, notre rapport à la nostalgie, notre rapport à notre passé impérial, etc. Je pense que tout ce qu'il cite, lui, par exemple, ça nous projette pas dans l'avenir, ça nous projette dans...
Le passé.
Ça agite des pulsions froides, en fait, et ça nous rend tristes. Et tu vois, j'ai lu son discours à la Convention de la droite, en fait, il désigne des ennemis, mais en fait, les gens qui désignent, ce sont des extrémistes également, tu vois, qui sont tout petits, genre les indigènes de la République ou je sais pas quoi. Et en fait, je me dis... en fait, les extrêmes, là, ils sont en train de causer entre eux, ils jouent au ping-pong entre eux, et nous, on est au milieu, on regarde et on s'emmerde. Et en plus, on est énervé. Tu vois,
sinon, on sort du débat et on...
Ouais, on sort du débat, on a lâché l'affaire, ouais. Tu vois. Et c'est comme si au tennis, on décidait de mettre le 50e mondial contre le 50e mondial, quoi. On regarde, mais il y a plein de gens, tu vois, qui ont une parole posée, intéressante, intelligente,
nuancée.
Réfléchie.
Et nuancée.
Nuancée, qui devraient être dans le débat, qui sont pas des gens à embrouille. Et je crois que, tu sais, dans le débat public, le style, ça compte énormément, le style, dans la manière dont tu parles. Là, tu vois, volontairement, je suis en mode pote parce que c'est un podcast, mais c'est pas assez... dans les médias, je vais pas aller là-dessus, notamment si je veux parler de littérature et tout, et de jeunes auteurs, ça va les dévaluer si je fais ça. Donc, tu vois, j'adapte le ton aussi. Je vais aussi avoir peut-être un ton en pote, mais pas tout le temps. Mais si tu veux, en fait, ce ton agressif, confrontation, je vais donner des noms, tu vois, Rokhaya Diallo, une fille intéressante. Éric Zemmour aussi peut être intéressant sur certains thèmes, mais il est tellement violent, ils sont tous violents, tous dans la confrontation. En fait, en vrai, c'est l'octogone des médias, c'est l'octogone public, on est dans le MMA, ça excite une partie des gens et toute une partie des autres gens sont partis. Donc moi, j'aimerais bien des gens responsables de chaînes, tu vois, même des patrons de chaînes,
qui
nous apportent un vrai bol d'air et putain qu'on découvre aussi, tu vois, des nouvelles têtes, des nouvelles figures. Il y en a plein, des gens brillants, hyper intéressants. Et notamment des gens dans l'écologie, tu vois. Alors, et l'autre coup de gueule, c'est dans l'écologie, moi j'aimerais bien qu'on... C'est cool d'être catastrophiste, tu vois, parce que ça fait prendre conscience. Mais on a aussi... Si on utilise la science pour dire que ça va pas, eh ben aussi utilisons la science pour montrer qu'il y a des solutions. Et il y a plein de solutions.
Mais surtout que le catastrophisme, ça a un effet inverse en général.
Bah ça t'angoisse.
Bien sûr.
Tu vois,
mais
c'est la fuite.
J'en parlais avec un climatologue que je te recommande vivement, enfin dont je recommande le podcast, et il est brillantissime et il parle de ça en disant que le catastrophisme, ça se retourne contre la cause.
Ah ouais, tu vois. Mais il y a plein de trucs, tu vois, avec la science, la supraconduction, il y a plein de trucs qu'on pourrait inventer. Moi, je suis pas scientifique, mais tu vois, je suis allé me documenter, j'ai lu. Bon, voilà. Et en fait, j'aimerais bien, tu vois, que là-dessus, on avance un peu.
Et qu'il y ait un débat aussi, un débat public.
Pour
rendre accessibles des notions qui, pour le moment, sont hyper abstraites pour beaucoup de gens.
Non, mais tu vois, ça évite de dire acheter des tote bags, c'est bien pour la planète. Parce que là, en fait, je crois que ça sert un peu à rien. Enfin, tu vois. non, mais tu vois. Non, mais par exemple, si t'arrives à réaliser la supraconduction, donc c'est un truc de physique quantique, tu vois, c'est un truc qu'on sait faire en laboratoire. Mais si tu le fais, il y a une usine dans le monde qui produit quasiment tous les engrais, enfin un substrat originel pour les engrais. C'est une seule usine dans le monde qui est aux États-Unis qui la produit. Et cette usine, elle produit 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. Si tu arrives à faire la supraconduction, donc à créer un moteur quantique pour chauffer, en fait, tu supprimes d'un coup 2 à 3% des émissions mondiales parce que tu résous un problème dans une usine qui produit un substrat d'engrais qui bénéficie partout dans le monde. Bah, en fait, ça, on est dans du rationnel, c'est de la science et on n'est pas dans du débat tote bag, je sais pas quoi, faites du vélo. Non, mais tu vois, moi, j'adore faire du vélo en ville, mais en fait, tu vas pas forcer, on n'est pas dans une dictature, tu vois.
Ça, on est d'accord.
Non, mais tu vois, donc la science, ça t'apporte ça, tu vois. Et ça, c'est du débat. Comment tu fais la supraconduction, c'est du débat. Parce qu'on parle de fric...
Non, mais il faut élever le niveau aussi.
Et
c'est le niveau des médias.
Notre président, il serait à l'écoute de ce genre de trucs. tu leur amènes 5 scientifiques, tu vois, des physiciens quantiques, en leur expliquant, bah ouais, donnez-nous 30 milliards pour qu'on trouve ce truc-là, et la France sera leader mondial de la physique quantique, de l'énergie quantique. Ouais, lui, il donnera, je pense, vu comme il est. Mais tant qu'on est dans, tu vois, on va pas recommencer, mais, non, mais tu vois le truc.
Maïr, merci beaucoup. On pourrait parler pendant des heures avec toi. Ouais, on fera peut-être un autre épisode ensemble.
Bah ouais.
En tout cas, merci. C'était passionnant. Et puis, bonne route.
Bah, merci. Ouais. Et à bientôt.
À bientôt.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.